Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, venez Esprit Saint, pardon, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes toujours au chapitre 5 de l'Évangile selon Saint Jean, expliquant les versets 14 à 18. Donc à la page 59. Je vous rappelle donc que ce fichier contient tous les textes des pères de l'Église pour expliquer les cinq premiers chapitres de Saint Jean. Voilà le sujet de ce début de cours. Plus tard, versets 14 à 18, Saint Jean chapitre 5. Plus tard, Jésus trouva dans le temple, donc cet homme qui vient de guérir, et lui dit, voici que vous avez été guéri. Ne péchez plus désormais de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pire. Cet homme alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait des choses, ces choses, le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore davantage de le faire mourir parce que non seulement il violait le sabbat, mais parce qu'en outre il disait que Dieu était son Père, se faisant égal à Dieu. Donc on voit très bien ici que les Juifs avaient parfaitement compris que notre Seigneur Jésus-Christ se prétendait Dieu. Donc ça bloque tout de suite les modernistes qui prétendent que notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais affirmé qu'il était Dieu, n'a jamais cru qu'il était Dieu, et que c'est l'Église catholique qui a construit littéralement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'en fait notre Seigneur Jésus-Christ n'avait jamais considéré qu'il était lui-même Dieu. C'est totalement faux, ce sont les bêtises modernistes. Et en fait, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il va le dire expressément à la Samaritaine. Et là aussi, il prouve par ses miracles et par l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament sa divinité. Alors le point important, j'ai déjà commencé à expliquer ces passages, le point important pour moi est celui-ci du verset 14. Voici que vous avez été guéri. Donc il parle à cet homme qui était malade depuis 38 ans. Et qui souffrait de paralysie. Donc il le guérit à la piscine de Bethsabée. À la piscine probatique, donc. Il va ensuite le retrouver plus tard hors du temple, alors que ce dernier a été guéri. Donc voilà le passage important pour moi et pour les pères. Voici que vous avez été guéri, ne péchez plus désormais de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pire. Donc encore une fois, c'est très important pour un prêtre qui explique l'Écriture sainte de ne pas chercher à avoir des explications personnelles particulières sur le texte de l'Écriture sainte qu'il commente. Il faut tout simplement regarder ce qu'ont dit les pères. Quand les pères insistent sur un point précis, j'insiste sur le même point. Et si les prêtres sont tous d'accord sur un même point, cela entraîne pratiquement l'infaillibilité de ces explications. Donc loin du prêtre, l'idée d'avoir une interprétation personnelle de l'Écriture sainte. Si on le fait, on tombe dans le modernisme et bien sûr dans le protestantisme. Donc, vous avez été guéri, ne péchez plus désormais. Donc les pères ont expliqué, j'avais déjà commencé à reprendre ces textes au dernier cours, les pères expliquent que notre Seigneur Jésus-Christ prouve ce miracle aux yeux de tous parce que cet homme qui était malade depuis 38 ans. Donc tout le monde connaissait cet homme qui était paralysé, qui mendiait à l'entrée du temple parce qu'il ne pouvait pas se déplacer, donc il ne pouvait pas travailler. Et notre Seigneur Jésus-Christ va faire le miracle et va présenter ce miracle à l'ensemble de la ville en obligeant, en demandant à cet homme qu'il vienne guérir de porter son grabat sur son dos pour bien montrer, manifester publiquement qu'il était guéri. Et les pères expliquent, j'en ai déjà un peu parlé, les pères expliquent que le grabat qui est porté sur le dos montre que notre Seigneur Jésus-Christ demande un changement complet d'attitude. N'oubliez pas que pour être pardonné, c'est ce qu'on appelle la matière du sacrement de pénitence, pour être pardonné, pouvoir recevoir validement l'absolution, il faut que le pénitent apporte avec lui dans le confessionnal trois choses, la contrition, l'accusation, la réparation. Je répète des choses que vous savez déjà, j'espère. Donc la contrition, c'est deux choses, c'est à la fois le ferme propos d'amendement, c'est-à-dire de fuir les occasions prochaines volontaires de péché mortel. Et il faut que ce ferme propos d'amendement, pour qu'il y ait une véritable contrition au moins imparfaite, soit jointe à une douleur réelle, interne, surnaturelle, suprême et souveraine. Et surtout surnaturelle. Donc, si la douleur n'est pas surnaturelle, il ne peut pas y avoir de contrition imparfaite. Une contrition imparfaite est déjà surnaturelle. Donc, il faut que ce soit une véritable douleur. Et la douleur qui permet la contrition imparfaite, c'est-à-dire le regret des péchés par peur de l'enfer, ne suffit pas. Il faut, en plus de cette contrition, il faut également, et c'est le point sur lequel les pères insistent, il faut une réparation. Même dans un cas de douleur parfaite, de contrition parfaite, il faut la réparation. Vous avez volé 1000 euros, par exemple. Vous regrettez avec une contrition parfaite, votre péché. Vous regrettez d'avoir volé 1000 euros par amour de Dieu. Très bien. Mais il faut, pour pouvoir bénéficier de l'absolution sacerdotale et du pardon du bon Dieu, il faut impérativement que l'argent soit rendu d'une façon ou d'une autre. Si l'argent n'est pas rendu, la réparation n'est pas accomplie, et à ce moment-là, il manque quelque chose à l'intégralité de la matière. La matière étant incomplète, eh bien, le péché ne peut pas être pardonné. Donc, les pères expliquent que cet homme qui porte son grabat représente le changement de vie. Le changement de vie. Voilà les paroles des pères. Donc, on est au milieu de la page 59. Ces paroles nous apprennent encore que si nous retombons dans les mêmes péchés pour lesquels Dieu nous a sévèrement châtiés, des peines beaucoup plus sévères nous sont réservées. C'est justice. Car celui que les premiers châtiments n'ont pu rendre meilleur doit s'attendre en punition de son insensibilité et de ses mépris à un supplice bien plus terrible. Malheur à la truie qui retourne à son vomi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai été pardonné par le bon Dieu et que je retourne dans le péché passé, évidemment, ma situation devient pire que la première. Rappelez-vous ce qu'explique notre Seigneur Jésus-Christ dans une autre partie des évangiles, que lorsque le démon quitte une âme, il va essayer de chercher un moyen de revenir dans cette âme. Comme il la trouve tout ornée par la grâce sanctifiante, il va partir et chercher sept démons pires que lui. Et s'il arrive à revenir dans cette âme, l'état de cette personne qui avait retrouvé la grâce sanctifiante, s'il a le malheur d'accepter de nouveau le péché grave, du coup, c'est sept démons qui vont rentrer en lui, sa situation va être pire qu'au premier stade. Donc Dieu demande une réparation complète. C'est pour ça qu'il dit, ne péchez plus désormais, de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pire. Donc c'est bien l'allusion à ces sept démons qui risquent de revenir dans l'âme. Donc, lorsque le bon Dieu pardonne, il pardonne, mais il demande un changement de vie complet. Un changement de vie complet. Et si ce changement de vie n'est pas obtenu, parce que la personne, par exemple, garde une occasion prochaine volontaire de péché grave, eh bien, le bon Dieu risque de châtier beaucoup plus sévèrement la faute après, parce que justement, elle arrive après avoir reçu des grâces toutes particulières. Plus on a reçu de grâces, plus il nous faut remercier le bon Dieu, et puis il nous faut changer de vie. On le voit très bien chez des grands pécheurs qui se sont convertis, comme saint Augustin, sainte Marie-Madeleine, qui sont devenus des très grands saints. Donc malheur à celui qui se convertit, qui prétend se convertir, mais qui ne répare pas. Rappelez-vous que donc il faut la contrition, il faut l'accusation, et expliquer le nombre des péchés, les circonstances des péchés qui changent le péché, Et puis, il faut donner tous ces détails, donc surtout donc le nombre, l'espèce et les circonstances. C'est ce qu'enseigne le catéchisme. L'espèce, expliquer si c'est un péché mortel ou un péché véniel. C'est pas pareil de voler un euro, de voler 10 euros, de voler 100 euros, de voler 1 000 euros. D'accord? C'est pas pareil de voler un riche ou voler un pauvre. Voler un pauvre, c'est plus grave que de voler un riche, parce que le riche, il a facilement de quoi réparer le vol. Par contre, pas le pauvre. Mais la contrition et l'accusation ne suffisent pas, il faut la réparation. Rappelez-vous qu'il y a une double réparation. Il y a des réparations sacramentelles, je ne sais pas comment on dit, et qui consiste à faire la petite pénitence qui vous est donnée par le prêtre, et beaucoup de nos fidèles, parfois, pensent que ça suffit. Ah ben, l'abbé m'a donné une dizaine de chapelets à dire, j'ai dit ma dizaine de chapelets, bon, ça va, je suis de nouveau, j'ai fait place nette dans mon âme, j'ai de nouveau une âme toute propre, toute nette, et maintenant c'est fini. Attention, il faut réparer. Il faut réparer. Alors, pas, et ce qu'on appelle la réparation extra-sacramentale ou extra-sacramentelle, et si vous avez volé, il faut réparer, il faut rendre l'argent. Si vous avez détruit la réputation du prochain, vous pouvez demander pardon de l'avoir fait, il ne suffit pas. Il suffit pas de demander pardon, bon Dieu, pour la calomnie que j'ai faite ou la médisance que j'ai commise. Il s'agit de réparer le mal commis autant que faire se peut. Et c'est une chose que nos fidèles parfois ont du mal à comprendre. Il faut une réparation. Et si cette réparation n'est pas achevée ici-bas sur la terre, eh bien, le purgatoire, ce sera pour ça. Le purgatoire, c'est quoi? C'est un lieu pour purifier l'âme des péchés qui ont été pardonnés, mais qui n'ont pas encore été suffisamment réparés. Suffisamment réparés. Alors, bon Dieu pardonne, bien sûr, mais il demande un changement. C'est la phrase de notre Seigneur. Ne péchez plus désormais, de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pire. Encore une fois, ça va tout à fait contre cette idée moderne, totalement moderniste, que Dieu pardonne tous les péchés. Il pardonne tous les péchés à condition que le pécheur soit repentant. Si nous ne recevons pas ici-bas la punition de nos péchés, ne mettons pas notre confiance dans cette impunité, car elle nous présage pour la vie future des châtiments bien plus terribles. On dit que Dieu n'oublie jamais un acte bon posé, même de façon naturelle. Donc, quand des gens posent des actes bons de façon naturelle, vous avez des grands pervers, dans les hommes politiques en ce moment, c'est pas ça qui manque, de tous les côtés, quel que soit de droite comme de gauche, on est entouré d'hommes politiques qui sont plus ou moins des bandits, il faut voir ce qui est. Et il y en a qui font un certain côté un bien. Par exemple, vous avez des gens très riches qui ont peut-être acquis leur richesse de façon tout à fait malhonnête, mais qui utilisent une partie de leur richesse pour faire du bien, par exemple pour organiser dans leur ville une soupe populaire ou des choses de ce genre. Très bien. Même si cette soupe populaire est organisée à partir de deniers qui ont pas été acquis de façon honnête. En soi, ça reste quand même une chose qui est bonne, sur plan purement naturel. Donc Dieu qui connaît tout, il sait si cet homme très riche qui a acquis sa richesse de façon frauduleuse et qui fait certains actes naturellement bons, par exemple pour aider une personne, je connais des francs-maçons qui organisent des soupes populaires, par exemple en hiver pour aider les pauvres. Bon, très bien, mais ça reste un bien purement naturel. Dieu, qui connaît tout, il sait très bien si cet homme va se convertir ou non avant la fin de sa vie. Si malheureusement cet homme ne va pas se convertir, et Dieu le sait puisqu'il connaît tout, Dieu sait le futur, il connaît que cet homme qui fait du bien naturellement tout en vivant dans le péché ne se convertira jamais. Eh bien, qu'est-ce que va faire le bon Dieu? Dieu va récompenser naturellement cet homme pour le bien naturel qu'il a fait, parce qu'il sait qu'il ne peut pas donner une récompense surnaturelle à ce même individu. Parce que malheureusement, il va mourir un tas de péchés mortels. Donc, il les récompense ici-bas. Oui, je me rappelle cette phrase américaine que j'entendais souvent chez les fidèles américains. Dieu a béni les États-Unis, la preuve, nos magasins sont tous pleins. C'est Carol Robinson qui faisait remarquer, il ne faut pas remercier le bon Dieu, il faut remercier le démon. C'est le démon qui nous pousse justement à l'abondance des choses matérielles et à l'usage déraisonnable de ces choses matérielles. Et quand tout va bien, qu'il n'y a jamais de problème dans une, dans un, pour un individu, alors qu'il vit dans le péché mortel jusqu'au cou, c'est vraiment un très très mauvais signe. En général, c'est un signe de damnation. Dieu, sachant qu'il ne peut pas récompenser par le paradis cet homme après sa mort, donc récompense ici-bas, parce qu'il il a un tel sens de la justice que mais il va récompenser ici-bas le bien naturel qui a été fait par cet individu. Vous avez par exemple les organisations, je pense par exemple à les organisations maçonniques du genre Rotary Club ou Lions Club, ou les Kiwanis, enfin en France je crois que c'est surtout la... le Rotary Club, qui est une organisation maçonnique, attention, qui organise parfois des actes de charité naturels. Encore une fois, par exemple, aider les pauvres, donner à manger aux SDF dans la rue, très bien. Mais encore une fois, c'est du domaine naturel. Il faut se rappeler encore une fois ce texte de Saint Paul. J'enregistre ce cours le 24 février 2022 et dimanche prochain, pour la quinquagésime, il y a ce texte de Saint Paul qu'on trouve dans l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, 1 aux Corinthiens, chapitre 13, dans lequel il est bien dit, Saint Paul va expliquer, même si je donne mon corps, tous les biens matériels que j'ai pour les pauvres, si je n'ai pas la charité, je ne sers à rien, ça ne me sert à rien. Pourquoi ? La charité, c'est quoi ? C'est la charité, l'acte surnaturel de charité, la vertu théologale de charité, qui fait que j'aime Dieu, et parce que j'aime Dieu, je suis ses commandements, et j'aime le prochain pour amour de Dieu, pour aimer, aider le prochain à monter vers les commandements du bon Dieu. Vous voyez ? Donc faire attention à ne pas oublier ces choses-là. La contrition est nécessaire, l'accusation est nécessaire, mais il faut aussi la réparation. Donc l'impunité après le péché est en général un très mauvais présage, disent les pères, pour la vie future. Et en général, annonce des châtiments bien plus terribles, parce que c'est une réflexion qu'on entend régulièrement. Vous savez, comment se fait-il que dans le monde moderne, des gens qui sont des escrocs, des bandits, il suffit de voir les politiques aujourd'hui, la plupart des politiciens aujourd'hui sont tous des escrocs, des bandits, presque tous, et comment se fait-il qu'ils ne soient pas châtiés par le bon Dieu ici-bas ? Pourquoi on se dit qu'on a l'impression que tout leur réussit, sur plan financier, sur plan des affaires, tout leur réussit. Regardez ces grands financiers comme Bill Gates ou comme Bezos ou comme tous ces grands financiers, la famille Rothschild, etc. On a l'impression que tout leur réussit. Mais c'est plutôt un mauvais signe. Quand, au contraire, nous avons des difficultés, la croix est là, tout le temps. Eh bien, c'est plutôt un bon signe. Parce que Dieu, c'est ce que dit à ta Sainte Vierge Marie et à Sainte Bernadette, je ne peux pas vous promettre de vous rendre heureuse ici-bas, dans ce monde ici-bas, mais dans l'autre. Le but de la manœuvre, ce n'est pas d'être riche ici-bas. On cherche à accumuler des richesses que les voleurs ne peuvent pas posséder, ne peuvent pas nous voler. Vous voyez, donc attention à ça, ne pas oublier ce point qui me semble très important. Les pères de l'Église expliquent que toutes les maladies, puisque cet homme était malade, il était paralysé depuis 38 ans, toutes les maladies ne sont pas absolument la peine du péché. Il ne faut pas non plus, une autre erreur, il ne faut pas considérer que systématiquement la maladie est un châtiment de Dieu. Ce n'est pas toujours un châtiment de Dieu. Ces maladies sont parfois la suite de notre négligence, parfois des choses purement naturelles, parfois nous sont envoyées, comme au saint homme Job, pour nous éprouver. Il y a des tentations d'épreuve et des tentations de séduction. Tentation de séduction, elle est voulue directement par le démon. Tentation d'épreuve, elle est permise par Dieu. Dieu ne veut pas quelque chose de mauvais en tant que tel. Mais une tentation pour un bon motif, peut-être quelque chose de nécessaire pour notre sanctification. Rappelez-vous, Saint Paul qui trois fois demande à notre Seigneur Jésus-Christ d'être délivré de certaines tentations très fortes qu'il avait, que lui répond notre Seigneur Jésus-Christ, ma grâce vous suffit. Oui. Donc il faut pas tomber dans le panneau qui consiste à vouloir systématiquement éviter toutes les difficultés. Non. Tout homme qui veut vivre pieusement, nous dit Saint Paul, subira, à Timothée je crois, tout homme qui veut vivre pieusement subira la persécution. Et donc, si on a la persécution, c'est un bon signe. Et c'est ce qu'avait compris parfaitement le saint Job dans l'Ancien Testament. Il avait compris que si le Seigneur a donné, il peut reprendre. Et que plus il donne, plus il a le droit de demander. Vous voyez ? Donc, c'est vrai que c'est difficile actuellement. Dieu sait s'il y a des familles qui sont dans de grosses, grosses difficultés, qui sont en train de perdre leur travail, par exemple. Je connais des pères de familles qui ont perdu, qui sont en train de perdre leur travail à cause de la folie vaccinale actuelle, à cause de la dictature médicale actuelle, contre ce soi-disant cette pandémie actuelle, ils sont en train de perdre leur travail. Il peut y avoir des grosses croix. Et le bon Dieu nous demande de ne pas nous décourager. Je connais quelqu'un qui vient de perdre tout son avoir, toute sa maison. Il y a eu un incendie qui s'est déclaré, il a tout perdu. Sauf, heureusement, ses enfants ont le temps, et son épouse qui ont le temps de sortir de la maison en flammes. Donc, il n'y a pas eu de dégâts humains, mais il y a eu des dégâts matériels énormes, il a tout perdu. Bon, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter toutes ces difficultés? Mais je conseille beaucoup à ceux qui passent par des grosses difficultés de ce genre, ce sont des croix terribles, hein. Tout perdre sa maison, perdre tous ses biens mobiliers, les biens immobiliers aussi, tout perdre d'un seul coup, c'est pas facile. Relisez le livre de Job. Voilà le conseil que je leur donne. Relisez le livre de Job. Mais Job avait tout perdu. Il avait tout perdu, et pourtant il s'est pas découragé. Dieu lui a pris tous ses biens matériels, lui a pris ses enfants, lui a pris tout ce qu'il avait, et même il s'est retrouvé couvert d'une espèce de lèpre épouvantable qui faisait fuir tout le monde loin de lui. Et bien, il ne s'est pas découragé. Le bon Dieu a donné, le bon Dieu a repris, que son Saint-Nom soit béni. Oui. Donc, ne mettons pas notre confiance dans cette impunité, bien que toutes les maladies ne soient pas absolument la peine du péché. Donc, certaines maladies peuvent être tout simplement des épreuves que le bon Dieu permet. Le bon Dieu envoie des épreuves à ceux qu'il aime bien. Rappelez-vous la phrase très connue de sainte Thérèse d'Avila, la grande mystique espagnole. Oh mon Dieu, quand je vois la façon dont vous traitez vos amis, c'est pas étonnant que vous en ayez si peu. C'est tout à fait ça. Autre passage ici des Pères, ce que l'Écriture sainte appelle repos pour nous apprendre que nos bonnes œuvres seront suivies d'un repos. C'est ce que l'Écriture, appelle repos pour nous apprendre que nos bonnes œuvres seront suivies d'un repos éternel. Donc, si j'accepte ces tentations d'épreuves qui me sont permises par le bon Dieu et que je ne me décourage pas, comme le saint homme Job ne s'est pas découragé, saint homme Job a reçu beaucoup plus qu'il avait perdu une fois que le bon Dieu a décidé que l'épreuve était terminée. N'oubliez pas que Dieu a pouvoir sur le démon et limite le pouvoir du démon. Il ne permettra pas que les forces du mal prévalent contre son Église. De la même façon, le bon Dieu limite le pouvoir du démon sur notre âme et donne à chacun d'entre nous les grâces dont nous avons besoin pour ne pas être dominé par le démon. On a l'impression parfois qu'on est abandonné par le bon Dieu, mais pas du tout. C'est une tentation, surtout pour aujourd'hui, en 2022. Beaucoup de gens disent, mais monsieur l'abbé, on a l'impression que le bon Dieu nous a abandonnés. Reprenez l'évangile de la tempête apaisée. Notre Seigneur Jésus-Christ dans la barque, mais il dort. Il n'a pas idée de dormir en cas de tempête. Il dort. Oui, mais il est dans la barque. Ah, mais il y a l'eau qui risque de passer par-dessus, on va passer par le fond. On va tous couler, on va tous se noyer. Dieu est dans la barque. C'est tout ce qui compte. Ah, mais il y a du vent. Oui, mais il est dans la barque. Ah, mais les vagues sont très fortes. Il est dans la barque. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, ce repos annoncé par notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a un repos éternel ou un malheur éternel. Rappelez-vous les phrases de notre Seigneur Jésus-Christ sur ce sujet, qui a deux voies. Une voie étroite et resserrée, et peu nombreux sont ceux qui l'apprennent malheureusement, qui mène au repos éternel, et une voie large et facile qui mène à la perdition et au malheur éternel. Donc c'est après, parce que disent les pères, c'est après avoir fait l'homme à son image et à sa ressemblance, après avoir achevé tous ses ouvrages, et vu toutes les choses qu'il avait faites, que toutes les choses qu'il avait faites étaient très bonnes, que Dieu se reposa le septième jour. Aussi n'espérez pas point de repos par vous-même avant d'avoir recouvré cette divine ressemblance que Dieu vous avait donnée et que vous avez perdue par vos péchés, avant que votre vie ait été remplie par la pratique des bonnes œuvres. Vous voyez, donc ici, Père compare le repos éternel du repos du septième jour. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, de façon allégorique, c'est reposer le septième jour, bien que Dieu étant Dieu n'a pas besoin de se reposer, c'est évident. Mais c'est pour expliquer, après avoir créé le monde entier, tout l'univers actuel, après avoir achevé, créé l'homme à son image et à sa ressemblance, après il s'est reposé. Et ceci explique le repos dominical, le dimanche qui est consacré au bon Dieu et aussi consacré au repos et à la vie de famille. Eh bien, de même, ce repos du bon Dieu, ce repos dominical que le bon Dieu nous impose, et le bon Dieu nous impose ce repos dominical, n'oublions pas, ce nous impose justement de nous abstenir des œuvres serviles les dimanches et fêtes d'obligation. Eh bien, ce repos dominical est un symbole allégorique qui représente le repos éternel au ciel. Bon. Rappelez-vous aussi ce que j'ai déjà expliqué ça souvent, ce que veut dire cette phrase du livre de la Genèse, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc tous les hommes sont créés à l'image de Dieu, dans le sens que tous les hommes ont une âme qui est une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de le servir, comme dit Saint Pilice. Donc tous les hommes ont une âme. Un homme sans âme, ça n'existe pas. Bon. Mais tous les hommes n'ont pas été créés à la ressemblance de Dieu. L'image, c'est une chose, la ressemblance est encore plus élevée. La ressemblance de Dieu, c'est quoi? La ressemblance de Dieu, c'est la grâce. La grâce qui est surnaturelle, qui est surajoutée. Donc tous les hommes sont créés à l'image de Dieu parce qu'ils ont une âme, mais tous les hommes ne sont pas créés à la ressemblance de Dieu parce que beaucoup d'hommes, malheureusement, ne recevront jamais la grâce du baptême, ne recevront jamais la grâce sanctifiante. Vous voyez? D'où cette erreur épouvantable qui a fait tellement de mal dans l'Église, qui était l'erreur de base du Concile Vatican II, qui consiste à faire croire que la grâce est une partie de notre nature. La grâce est naturelle à l'homme. Ce sont les philosophes modernes qui disent ça, et c'était repris par Bergoglio, c'était repris par Wojtyla, c'était repris par Ratzinger, les derniers faux papes qui ont essayé de détruire l'Église catholique à partir de Rome. C'est clair et net, pour eux, la grâce est naturelle à l'homme. Et puisque la grâce est naturelle à l'homme, bon, c'est Congar aussi qui avait enseigné ces choses-là, Hans Küng aussi, Schilbeck, tous les grands hérétiques avaient enseigné ces mêmes bêtises, que la grâce est naturelle à l'homme. Donc, la grâce ne peut pas être détruite puisqu'elle est une partie de notre nature, et puisque la grâce est naturelle à l'homme, évidemment, conséquence, il n'y a pas besoin de baptême. Donc, tous les hommes sont sauvés, puisqu'ils ont tous sa grâce sanctifiante en eux. Alors que l'Église catholique, au contraire, enseigne que la grâce est quelque chose de surajouté. C'est un don gratuit de Dieu. Nous demandons cette grâce, mes bien chers frères, d'être, ne jamais oublier que nous sommes créés à la ressemblance de Dieu par le baptême. Et le jour de notre baptême, nous avons reçu la grâce de la charité. Malheureusement, cette grâce de la charité, elle est perdue par le premier péché mortel. Hein. Donc elle peut être récupérée par un acte de contrition parfaite ou par le sacrement de pénitence, à condition, encore une fois, qu'on arrive avec la matière du sacrement, pénitence, la contrition, l'accusation et la réparation. Donc avançons avec les versets 19 et 20 du chapitre 5 de Saint Jean. En vérité, ce que c'est, Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est ce qu'il voit faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. » Donc, le Seigneur explique justement par la notion de paternité et filiation, pour monter la paternité et la filiation, qui sont des relations intratrinitaires. Les trois personnes de la Sainte Trinité sont consubstantielles, c'est-à-dire la substance du Père est la même que la substance du Fils, est la même que la substance du Saint-Esprit, parce que c'est une seule divinité, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais il y a une séparation des personnes, une multiplication des personnes. Il y a trois personnes dans la Sainte Trinité. Donc il y a unité substantielle de la nature divine, qui est la même pour les trois personnes. Rappelez-vous la définition de la Sainte Trinité. Un seul Dieu en trois personnes égales et distinctes. Les trois personnes dans la Sainte Trinité sont égales parce qu'elles ont la même nature divine, mais elles sont distinctes parce que la personne du Père n'est pas la même chose que la personne du Fils, que la personne du Saint-Esprit. Rappelez-vous l'enseignement de Saint Thomas sur le sujet, qui est très clair. Du Père au Fils, il y a une relation de paternité. Du Fils au Père, c'est une relation de filiation. Ce n'est pas la même chose d'aller de Paris à Marseille, d'aller de Marseille à Paris, même si on prend la même route. Bon, et l'amour qui va exister entre le Père et le Fils dans la Sainte Trinité va, ce qu'on appelle, spirer, une autre relation, va spirer la relation de spiration, va spirer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, donc, procède du Père et du Fils. Non pas du Père par le Fils, comme disent les orthodoxes, mais du Père et du Fils. Et là, on retrouve les quatre relations trinitaires qui permettent la séparation des personnes. La procession, l'aspiration, la paternité et la filiation. Pour ceux qui ont besoin un petit peu de rappel sur ces choses, je vous conseille beaucoup de revenir sur les cours que j'ai mis justement sur le site d'Âme Marie. Donc soit le cours sur la Sainte Trinité que vous avez dans l'explication du credo, la partie sur la Sainte Trinité. Soit aussi, après cela, aussi les cours sur le De Trinitate de Saint Augustin, le traité de Saint Augustin sur la Sainte Trinité. Vous avez tout ça là-dessus. Je suis en train de préparer, c'est un détail, je suis en train de préparer la mise sur YouTube de tous les cours qui sont actuellement sur Dame Marie. Parce que beaucoup de gens m'ont fait la remarque qu'il est beaucoup plus facile d'écouter les cours sur YouTube que sur Dame Marie. Le problème, c'est que ça demande une transformation électronique et informatique. Je ne suis pas du tout doué, moi, à l'informatique. Je n'ai pas été formé avec ça. Et donc, il faut transformer des fichiers MP3 en fichiers MP4. Puisque, d'après ce que je sais, sur YouTube, il faut du MP4. Donc, il faut associer les cours qui sont sur Dame Marie en MP3, en audio, donc, les associer à une image et les mettre sur YouTube en MP4, c'est-à-dire en vidéo. Donc, ça demande une capacité informatique que je n'ai pas. Et on m'a essayé de m'expliquer, mais moi je ne suis pas très doué pour ça, je n'arrive pas, mais j'ai trouvé quelqu'un qui va, je pense, me le faire. Parce que ça prend beaucoup de temps. Je remercie déjà tous ceux qui, dans le passé, m'ont aidé. Notamment un ami d'Andorre qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Qui n'a pas toujours le temps de. Je ne peux pas non plus prendre constamment le temps des personnes. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui a les capacités techniques sans doute pour le faire ici. Qui vit chez moi en fait, et qui donc va pouvoir, j'espère, faire ce travail et donc pouvoir mettre sur YouTube, sur la chaîne YouTube, tous les cours de catéchisme, les cours sur la somme théologique de Saint Thomas d'Aquin qui sont sur le site d'Anne Marie, mettre tout ça sur YouTube. Et puis après, s'il y a du temps, je veux aussi qu'ils mettent sur YouTube les cours d'exégèse. Beaucoup de choses à faire, tout ça se fera en temps et en heure. Donc on avance avec la page 60 maintenant, donc versets 19 et 20 que je viens de vous lire. Alors Dieu donc va se manifester sa divinité. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a fait, toute la création. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Donc, les Pères font remarquer, donc à la page 60 sur le polycopier, les Pères font remarquer que manifester et montrer signifie donner et communiquer. Bon. Dieu, se montrant lui et ses œuvres à son Fils, lui communique sa propre connaissance et en conséquence son essence. Car la connaissance de Dieu est la même chose que son essence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Dieu, l'essence et l'existence sont une seule et même chose. Donc, c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu seul peut dire « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Bon, Dieu est la seule personne qui puisse dire « Ego sum qui sum »,« Je suis celui qui est ». Dieu peut dire « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Parce que la voie, la vérité et la vie sont une seule chose avec Dieu. Moi, je peux dire J'appartiens à la voie, j'appartiens à la vérité, j'appartiens à la vie, mais je ne peux pas dire je suis la voie, la vérité, la Dieu. Seul, la voie, la vérité et la vie, seul Dieu peut dire cela. Vous voyez? Donc, quand notre Seigneur Jésus-Christ, quand Dieu parle à Moïse dans le buisson ardent, qu'il révèle qui il est, je suis celui qui est, ego sum qui sum, je suis celui qui est, EST, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ montre justement, Dieu montre qu'il est par lui-même. Il n'a pas besoin d'autres personnes pour être. Donc, en lui, l'essence et l'existence sont une seule et même chose. Ce qui n'est pas le cas pour nous. En nous, pour nous, créatures, parce que nous sommes créatures, l'essence et l'existence sont deux choses complètement différentes. Bon, là, c'est de la philo, de la philosophie. Bon, je veux pas, me lancer dans ces cours-là pour le moment. D'abord parce que j'ai plus de mal, personnellement, à expliquer la philosophie que la théologie. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été comme ça. Je crois plus de facilité pour expliquer la théologie, mais je trouve beaucoup plus compliqué d'expliquer la philosophie. Alors, j'ai les notions philosophiques qu'on m'a apprises au séminaire, bien sûr. J'ai quand même suffisamment étudié saint Thomas d'Aquin pour les connaître, mais j'ai plus de mal à les expliquer. Et alors, donc, la connaissance de Dieu est la même chose que son essence. En lui, l'essence et la connaissance sont une chose et la même chose. Donc, on peut dire que Dieu est, EST, son intelligence. Dieu est sa volonté. Moi, en tant qu'Abbé Lafitte, j'ai une connaissance, j'ai une intelligence, j'ai une volonté. Mais je ne peux pas dire je suis ma volonté, je suis mon intelligence. Dieu peut le dire. L'intelligence divine est une seule chose avec sa divinité. Donc Dieu se communique d'abord dans le sein de la Sainte Trinité. C'est pour ça qu'il y a un amour permanent, éternel entre le Père et le Fils, qui permet l'arrivée éternellement du Saint-Esprit. Donc il ne faut pas croire qu'il y a un amour entre le Père et le Fils qui va provoquer l'arrivée du Saint-Esprit. Donc, sous-entendu, le Saint-Esprit n'a pas toujours existé, il a fini par arriver à cause de l'amour qu'il y a entre le Père et le Fils dans la Sainte Trinité. Pas du tout. Le Père et le Fils s'aiment de façon éternellement. Il y a une relation éternelle du Père au Fils, de paternité, une relation éternelle de filiation du Fils au Père, mais en même temps une relation éternelle qui vient à la fois du Père et du Fils, une relation de spiration qui elle aussi est éternelle. Les relations intratrinitaires sont éternelles. Et donc de façon éternelle, le Père et le Fils qui s'aiment mutuellement vont provoquer, spirer, c'est le terme philosophique, le mot spiration vient de là, spirer le Saint-Esprit de façon éternelle. Et le Saint-Esprit vient du Père et du Fils aussi de façon éternelle. Donc les quatre relations trinitaires sont éternelles. Vous voyez, c'est un peu le problème, c'est qu'on a un peu trop tendance à vouloir expliquer les choses avec des mots humains. Quand on parle de la Sainte Trinité, quand on explique ça aux enfants, ils ont plein de mal, c'est normal. On dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes différentes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Comment il y a Dieu? Les enfants disent, il y a trois dieux. Mais non, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul dieu. Ah, mais vous venez dire que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. C'est vrai. Mais le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il y a trois personnes distinctes. Le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Mais les trois sont divines. La substance entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit est la même. Vous voyez? Mais faire attention à ce qu'on dit dans ce domaine. Vous voyez, on peut dire, strictement parlant, on peut dire, et on doit dire, que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, ça on a le droit de le dire. Est-ce qu'on peut dire que Dieu est mort sur la croix? Non, parce que Dieu est éternel. Et quand on le dit aux enfants, si j'ai le malheur de dire Dieu est mort sur la croix, Dieu ne peut pas mourir. Mais ils ont raison, Dieu ne peut pas mourir. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix comme homme, et pas comme Dieu. Mais il est Dieu, et c'est le grand mystère de la Passion, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, tout en souffrant un martyr pour nous, garder la vision béatifique, parce qu'il était Dieu, il est Dieu. Vous voyez ? Ce sont des choses assez compliquées. Donc, Dieu se communique, se donne et se communique, c'est la signification du mot manifester, montrer, c'est le verset 20, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'admiration. Donc il va se communiquer et il illumine le Fils, lui communiquant sa propre lumière de sagesse, se donnant entièrement à lui, car Dieu est la lumière incréée et infinie, comme le montre saint Jean. Hein? Premier épître de saint Jean, chapitre 1, verset 5. Je vous lis le début de cette première épître de Saint Jean. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était dans le sein du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit complète. Le message qu'il nous a fait entendre et que nous vous annonçons à notre tour, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Oui. Donc notre Seigneur Jésus-Christ communique sa lumière incréée et infinie. Parce que Dieu, étant Dieu, est parfaitement et évidemment absolument sans péché. Donc, quand manifester, montrer signifie donner et communiquer, troisième explication des Pères, en comprenant, il produit le Verbe, c'est-à-dire le Fils, car en Dieu la plus noble chose est l'intelligence ou la compréhension, la plus noble action consiste à illuminer, à montrer. La plus noble et principale puissance de l'âme est l'intellect, ou la raison, qui commande la volonté et la guide comme si elle était aveugle. Par elle, tous les autres sens et puissances de l'âme sont régulés. Donc, c'est devrait être la même chose pour nous, d'une certaine façon, allégoriquement, malheureusement, c'est pas possible à cause du péché originel. Mais strictement parlant, qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir Dieu qui influe sur, par l'intermédiaire de la foi, sur notre intelligence. L'intelligence illuminée par la foi éclaire à son tour la volonté. La volonté éclaire à ce moment-là l'irascible et le concupiscible. Et toutes les puissances de notre âme, les puissances du concupiscible et de l'irascible, doivent être soumises à la volonté, elles-mêmes soumises à l'intelligence, et l'intelligence soumise à Dieu. Ça doit être comme ça. Malheureusement, l'intégrité, le don d'intégrité qui avait été donné à Adam et Ève, le don d'intégrité c'est quoi? N'oubliez pas que les quatre dons qui ont été donnés à Adam et Ève, le don de science infuse, le don d'intégrité, le don d'immortalité, d'impassibilité, donc ces dons auraient dû être transmis aux enfants. Malheureusement, ils ont désobéi à la loi de Dieu. Et donc, le don d'intégrité est définitivement perdu. Qu'est-ce que c'est que le don d'intégrité chez Adam et Ève? Le don d'intégrité chez Adam et Ève, c'est une parfaite soumission des passions de l'âme à la volonté, de la volonté à l'intelligence, de l'intelligence à Dieu. Malheureusement, le péché originel a entraîné une révolte. Donc, l'intelligence va se révolter contre Dieu. La volonté va se révolter contre l'intelligence et les passions de l'âme vont se révolter contre la volonté. Et c'est ce qui pousse Saint Paul à dire qu'il voit en lui une double loi. Il ne fait pas ce qu'il voudrait faire et il fait ce qu'il ne voudrait pas faire. Et bien, c'est la même chose pour nous tous. Donc attention, attention à ça. Le bon Dieu nous a donné une intelligence. Il faut nous obliger à utiliser cette intelligence illuminée par la foi pour contrôler l'intelligence, contrôler la volonté, et par le moyen de la volonté contrôler les passions de l'âme. Malheureusement, dans le monde moderne fait tout pour pousser justement les passions de l'âme à s'affranchir du contrôle de la volonté et bien sûr du contrôle de l'intelligence. Et on le voit parfaitement aujourd'hui. On le voit parfaitement aujourd'hui, surtout chez les jeunes, les adolescents, c'est très très net, les adolescents païens, c'est très très net, leur passion explose, ils n'ont plus aucun contrôle, c'est comme, si vous voulez, un étalon qui n'a pas de mort entre dans la mâchoire, entre les dents, et qui va faire n'importe quoi. Si on contrôle l'étalon, on peut en faire quelque chose de magnifique, mais un étalon qui n'est pas contrôlé par la force du maître, eh bien, il va tout casser. Et c'est exactement ce qui se passe. Et malheureusement, le monde moderne pousse à cette révolte. Pousse à cette révolte. La révolution, c'est ça. La révolution, c'est quoi? C'est la haine formelle de tout homme, tout ordre, dans lequel l'homme n'est pas reconnu comme roi et Dieu tout ensemble, dit Monseigneur Gaume. Mais c'est exactement ça. La révolution veut empêcher le contrôle de l'intelligence, le contrôle de la volonté par l'intelligence. Veut empêcher par tous les moyens le contrôle de l'intelligence par Dieu. Et donc la révolution va s'attaquer à ce lien qui doit exister entre l'intelligence et la volonté d'une part, et d'autre part entre la volonté et les passions de l'âme. Et c'est le monde moderne. Et la vie avec les écrans modernes, c'est exactement ça. Tous ces jeunes qui passent des heures et des heures à jouer avec des jeux vidéo ont cette espèce d'excitation constante. Moi, c'est ce qui me frappe le plus chez les jeunes adolescents aujourd'hui, surtout dans le monde païen, c'est une excitation constante. Ils veulent toujours plus de bruit, toujours plus d'agitation. Ils peuvent pas supporter le silence, ils peuvent pas supporter la tranquillité de l'ordre. Vous voyez, on le voit très bien. Vous allez dans un supermarché, du bruit tout le temps. Vous allez dans une grande surface, il y a du bruit tout le temps, de la musique tout le temps, et ils peuvent plus supporter le silence. Pourquoi? Parce que le silence mène à Dieu. C'est dans le silence qu'on peut écouter le bon Dieu. Comment vous l'écoutez le bon Dieu si vous êtes en train d'écouter la musique rock en même temps? C'est pas possible. Donc, n'oublions pas, encore une fois, c'est ce que disent ici les pères, en haut de la page 60, la plus noble et principale puissance de l'âme est l'intellect ou la raison qui commande la volonté et la guide comme si elle était aveugle. Par elle, tous les autres sens, les puissances de l'âme, sont régulés. Donc, l'esprit, disent les pères, en page 60, affecte toute chose, c'est la partie de la raison qui gouverne. Bon, l'intelligence gouverne, par définition. Plus quelqu'un est intelligent, plus il peut commander. L'intellect, il conçoit et comprend par le moyen de la conception et de l'intelligence, s'incorpore d'une manière vivante toutes les choses, comme s'il les possédait. Il conçoit tout en lui-même d'une certaine manière vivante, et en forme une apparence ou image qui lui représente toute la bonté et la beauté des choses. C'est ce qu'on appelle le processus par abstraction. On en a un système de connaissance abstractif. On n'est pas des anges. Les anges, ils ont un système de connaissance intuitif. Ils comprennent les choses directement. Ils mettent directement leur volonté dans une chose qu'ils ont choisie, et c'est définitif. Pas revenir en arrière. C'est pour ça que saint Thomas d'Aquin enseigne que lorsque Lucifer s'est révolté contre Dieu, c'est une révolte définitive. Il est en enfer aujourd'hui, il ne regrette pas ce qu'il a fait, strictement parlant, parce qu'il a mis sa volonté dans son choix, et à cause du fait qu'il était un pur esprit, une fois qu'il a choisi quelque chose, il ne peut plus revenir en arrière. Donc saint Thomas explique qu'un ange qui se révolte contre Dieu ne peut pas commettre un péché voniel. S'il commet un péché, c'est mortel, immédiatement, et c'est mortel de façon absolue, il ne peut pas revenir en arrière. Alors, je ne peux pas dire, je regrette ce que j'ai fait. Il n'y a pas de regret. Il y a de la haine contre Dieu, la haine contre les hommes qui se sauvent, mais il n'y a pas de regret de ce qu'il a fait. L'homme, au contraire, a un processus de connaissance des choses tout à fait différent. Nous, on comprend les choses par abstraction, ce qu'on appelle le système abstractif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, petit rappel de philo, qu'on comprend les choses en utilisant nos sens. Nous avons cinq sens. On voit les choses, on sent, on touche, on goûte, etc. Et par ces cinq sens que le bon Dieu nous a donnés, on est en contact avec l'extérieur, on voit la réalité extérieure. Et les sens vont envoyer, si vous voulez, par le système nerveux, système intellectuel, les sens vont envoyer au cerveau une image de ce qui se passe à l'extérieur. Si cette image correspond à la réalité extérieure, on est dans le vrai. S'il y a une distinction entre l'image telle qu'elle apparaît dans le cerveau et la réalité extérieure, on est dans le faux. C'est pour ça que saint Thomas définit la vérité, adéquatio rei et intellectum. Ça veut dire l'adéquation de la chose et de l'intelligence. L'adéquation, l'égalité entre la chose extérieure telle qu'elle existe dans le réel et l'interprétation et la connaissance de cette chose dans l'intelligence. Si vous regardez un beau paysage, où vous touchez une fleur magnifique, une rose magnifique entre vos doigts, le sens du toucher, le sens de la vue, va permettre d'avoir un contact avec cette fleur. Mais dans votre cerveau, vous pouvez pas mettre la fleur dans le cerveau, c'est pas possible. Donc dans le cerveau, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir l'image de la fleur. Donc une image intellectuelle de la fleur. Et cette image doit être réelle. Bon, je m'excuse pour cette interruption par le téléphone. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. On comprend les choses par abstraction. Puisque l'homme a une connaissance abstractive du réel extérieur, qu'est-ce qui va se passer? L'homme peut se tromper, on peut se faire tromper par les sens. Et c'est pour ça qu'un homme qui se rend compte qu'il a fait une bêtise peut revenir en arrière et demander pardon. Ce qui n'est pas le cas pour un ange. à cause de son système, son système de connaissances qui est bien supérieur au nôtre. L'homme a un système de connaissances par abstraction, il abstrait à partir des choses sensibles, et il faut que l'image qui est à l'intérieur de l'intelligence, du cerveau, corresponde à la réalité extérieure. Adéquation, rei et intellectum. Donc, ce n'est pas l'adéquation de la chose et du mouvement ou de la vie, non. C'est l'adéquation d'égalité qui doit exister entre la chose extérieure et la chose interne, c'est-à-dire l'image qui est dans le cerveau, qui est fabriquée dans le cerveau par l'intermédiaire des sens extérieurs. Donc c'est le texte de ce texte des Pères de l'Église. Je ne sais plus chez quel père j'ai trouvé ça, mais c'est un peu compliqué. J'avoue que c'est de la haute philosophie. Moi, je ne suis pas très doué, encore une fois, pour expliquer toutes ces choses-là. Mais il faut comprendre ça, au moins en partie. Il ne faut pas tout comprendre. Donc si vous voulez, vous avez des degrés de connaissance qui sont différents chez les gens. Bon, vous avez l'homme qui a un degré de connaissance intellectuelle qui est inférieur à celui des anges. Évidemment, donc la connaissance des anges est bien plus parfaite que la connaissance de l'homme, mais la connaissance de l'homme, de l'ange, est infiniment inférieure à la connaissance divine. Donc vous avez la connaissance de Dieu, connaissance des anges, connaissance humaine. Connaissance de Dieu, de connaissance parfaite, évidemment. La connaissance intuitive des anges est largement en dessous, mais elle est déjà extraordinaire, et la connaissance des hommes est en dessous de celle de la connaissance du niveau de connaissance des anges. Et après, ça s'arrête. Il n'y a pas d'intelligence chez un animal, contrairement à ce que les gens modernes disent et pensent. Il n'y a pas d'intelligence chez un chien. Pourquoi? Parce qu'un chien a une vie végétative, il a une vie sensitive, mais il n'a pas de vie intellective. Il n'a pas d'âme. Il a une âme végétative, il a une âme sensitive, mais il n'a pas d'âme intellectuelle, il n'a pas d'âme raisonnable. L'homme et l'ange ont tous les deux une âme raisonnable, donc sont capables de connaître Dieu, ce qui n'est pas le cas d'un chien ou d'un dauphin. Ce sont des êtres qui ont un instinct plus ou moins développé. Il y a des animaux qui ont des instincts plus développés que les autres, mais ces instincts sont limités. Un instinct même particulièrement développé n'équivaut pas à une intelligence. Donc il n'y a pas d'intelligence chez un chien. Donc on entend parfois des gens en dire « mon chien est très intelligent, mon chat est très intelligent ». Il n'y a pas d'intelligence, il y a un instinct plus ou moins développé. Lorsque l'oiseau décide de construire son nid, ce n'est pas sa volonté qui décide de construire son nid. Ce n'est pas son intelligence, il n'y en a pas. C'est un instinct qu'il a, que Dieu lui a placé dans son organisme, dans son corps, qu'il y a tel moment de l'année, je dois construire mon nid. Et il va construire le nid de façon innée, si vous voulez, sans qu'on ait à lui apprendre, parce qu'il a un instinct qui va lui indiquer ce qu'il faut faire. Vous voyez? Donc, les pères ont une belle expression que j'aime bien. Je vais essayer de terminer ce passage-là. L'intelligence est l'œil de l'esprit. L'œil de l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intelligence nous met en contact avec l'extérieur. Bon, c'est ce que je viens de vous expliquer. Justement, parce que l'intelligence de l'homme permet cette image qui apparaît dans notre cerveau, dans notre intelligence, provoquée par les cinq sens extérieurs. De même, disent les pères, que dans le corps, l'œil est la plus noble et la plus efficace des sens, et l'œil est la plus noble et la plus efficace des sens. Alors là, il y a une faute. Il faut que je corrige ça. L'œil est le plus noble et le plus efficace des sens, qui s'incorpore toutes les formes des choses, ainsi l'intelligence le fait dans l'esprit, mais de manière bien plus parfaite. Donc plus on montre, si vous voulez, dans l'échelle des intelligences, plus cette adéquation entre la réalité des choses extérieures et l'intelligence est parfaite. Alors, on va dire, mais est-ce qu'il y a aussi une connaissance abstractive chez les anges? La réponse est non. Pourquoi? Parce que pour avoir une connaissance abstractive, comme nous, il faut avoir des sens. Or, les anges sont les purs esprits. Qui dit pur esprit dit absence de corps. N'ayant pas de corps, un ange n'a pas d'yeux, n'a pas d'oreille, n'a pas de toucher, etc., n'a pas de goût, il n'a pas besoin des sens, parce qu'il est au-dessus de tout ça. Le corps entraîne en quelque sorte, c'est un poids, littéralement un poids mort, mais que le bon Dieu a voulu associer à une âme pour les hommes. Mais les anges, n'ayant pas besoin de corps, ne peuvent pas comprendre les choses comme nous. Nous, notre âme est associée à un corps ici-bas sur la terre. Au moment de la mort, il y a séparation entre le corps et l'âme, mais il va manquer à l'âme, une fois que l'âme est séparée du corps, après la mort, il va y avoir un jugement. Donc l'âme va être où ? Soit dans les limbes, si pour le cas par exemple d'un bébé mort sans baptême, il va dans les limbes, soit il va au purgatoire, soit cette âme va au purgatoire, soit elle va au ciel, soit elle va en enfer. C'est les quatre possibilités. Le ciel, l'enfer, le purgatoire, les limbes. C'est tout. Mais cette âme au ciel ou en enfer, il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose, qu'elle a besoin du corps en quelque sorte pour être complète. Et donc, c'est pour ça qu'au moment du jugement final à la fin des temps, lorsqu'il y a la résurrection de tous les corps, chaque corps va rejoindre l'âme qui a été sa forme pendant sa vie sur la terre. Parce quoi ? Donc cette séparation entre le corps et l'âme est contre nature, littéralement. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, il va y avoir une réunification entre chaque corps et chaque âme. Si l'âme est malheureusement en enfer, le corps va aller souffrir en enfer avec l'âme. Si l'âme est déjà au ciel, le corps va aller rejoindre son âme et va être éternellement heureuse au ciel. Vous voyez ? Ce sont des mystères. Il faut méditer un petit peu pour tout ça. C'est là où on se rend compte de la grandeur de Dieu et de la petitesse de l'homme. Mais l'homme, dans son intelligence, n'est rien par rapport à l'intelligence angélique. C'est pour ça que les hommes qui ont vu des anges, il y a eu plusieurs cas où des hommes ont vu des anges, par exemple les enfants de Fatima ont vu l'ange du Portugal, par exemple. Vous avez Tobie qui a vu un ange, qui a vu l'ange, qui l'a guidé, etc. Lorsque les hommes voient des anges, ils ont l'impression de voir Dieu. Et tombe littéralement à genoux devant l'ange pour commencer à l'adorer parce qu'il pense avoir vu Dieu. Et l'ange est obligé de dire, attention, je suis une créature comme vous. Parce que l'ange est une créature de Dieu. Relevez-vous, je ne suis qu'une créature comme vous. Je ne suis pas au même niveau que vous. J'ai un niveau supérieur, mais je ne suis qu'une créature. C'est pour ça que l'homme ne peut pas voir Dieu sans mourir. Justement parce que la lumière divine est tellement aveuglante pour nous, que ici-bas sur la terre, on s'écroulerait complètement. C'est pour ça, on le voit très bien dans la transfiguration, lorsque les dieux, notre Seigneur Jésus-Christ dévoile une toute petite partie de sa divinité, les trois apôtres qui sont à bord, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, sont complètement paniqués justement à cause de ça. Donc l'intelligence est l'œil de l'esprit, de même que dans le cœur, l'œil est le plus noble et le plus efficace des sens. Il s'incorpore à toutes les formes des choses, ainsi l'intelligence le fait dans l'esprit, mais de manière bien plus parfaite. Mais les bienheureux au ciel, par le moyen de l'intelligence, comprennent et voient Dieu, au moins aussi parfaitement que c'est possible, se l'incorporant en eux-mêmes, le possédant et sont bénis par lui. Bon, il est évident que même les bienheureux au ciel ne peuvent pas comprendre Dieu au ciel comme Dieu se comprend lui-même. Il n'y a que Dieu qui peut se comprendre lui-même. C'est une citation d'Aristote, je trouve dans un père, je ne sais plus lequel. Aristote disait, l'intelligence par la compréhension devient toute chose, car par une vivante représentation des choses, il se fait assimiler par elle et se les assimile. Elle les saisit, elle les retient, et elle les fait sortir d'une manière plus noble, plus belle, qu'elles ne sont en elles-mêmes. Par elles-mêmes, elles sont souvent mortes et inanimées, mais elles sont vivantes et animées par l'intelligence, vivant par le plus haut et excellent acte vital. Donc la grandeur de l'homme, c'est quoi ? C'est son intelligence. Et c'est pour ça que la révolution fait tout pour détruire l'intelligence des hommes. On le voit très bien dans le monde moderne. Des enfants, des adolescents qui passent des heures devant un petit jeu vidéo, leur intelligence est devenue complètement sclérosée, ils ne peuvent plus l'utiliser. Ils en ont encore une, mais ils ne sont plus capables de l'utiliser. Et c'est ce que veut le monde moderne. Le démon qui dirige le monde moderne veut cette sclérose de l'intelligence parce que l'intelligence permet de découvrir Dieu. L'objet premier de l'intelligence, c'est le vrai. Le bon Dieu nous a donné une intelligence pour que nous puissions posséder le vrai et trouver le vrai. Voilà, je vais arrêter là parce que ça fait déjà une heure que je vous parle. Et je comptais, dans ces deux derniers cours, terminer le chapitre 5. J'en suis loin. Bon, je ne peux pas aller plus vite que la musique. Je vais faire ce que je peux. peut-être un petit peu long, mais il y a tellement de choses à expliquer, je fais ce que je peux. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.